Oui, aïe, aïe. Bonjour. Ah, c'est Madame B. Saint-Martin-du-Puy, Nièvre. À Madame Royale, pour son bonheur, il lui manque un trône, un manteau, fleurs de lys et une couronne de diamants. Ça commence à faire bien. Y'en a marre. Hein? Royale par-ci, Royale par-ça. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à lui courir derrière, mais attention aux dégâts. Bonne journée.
Bonjour, j'appelle pour dire qu'un comité de soutien à Denis Robert vient d'être créé pour l'aider financièrement à supporter tous les procès qui lui sont intentés. Je rappelle si besoin est que Denis Robert a fait un travail essentiel en faisant découvrir à tous Clearstream, cette fameuse chambre de compensation luxembourgeoise qui est un des rouages essentiels du capitalisme moderne et qui permet aussi de dissimuler, d'évader des capitaux, de favoriser le blanchiment d'argent, bref, de faire de l'économie mondiale une économie de plus en plus noire. Le problème, c'est que Denis Robert est un journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'il est seul, et qu'il croule sous les procès que lui fait Clearstream, et dont le but n'est pas de prouver qu'il a tort, mais de l'étouffer financièrement. Donc si vous voulez l'aider, allez sur le blog lesoutien.blogspot.com, lesoutien.blogspot.com, et puis tant que j'y suis, un petit mot à Daniel Mermet, ce serait pas du luxe de faire une émission, voire plusieurs même, sur les travaux de Denis Robert. Merci, c'était Alexandre à Hermeray.
Salut Daniel, l'animateur modeste et génial. Bon ben voilà, normalement je devrais gueuler, mais bon je vais essayer de pas gueuler parce que je vais essayer de calmer ma colère. Mais je suis dégoûté de ce qui se passe là, à la gauche de la gauche. Quoi. Si on n'est pas capable de s'entendre entre le PC, la LCR et puis tous les militants syndicaux, associatifs et même ceux qui militent dans rien, c'est vraiment lamentable. Quoi. Je veux dire, nous on a une espérance, on a un espoir. Moi je suis ouvrier dans une boîte, je galère et tout, j'ai participé à toutes les campagnes militantes. Enfin, pour la nationalisation, enfin, pour tout, quoi. On se bat pour tout, de tous les côtés, pour les sans-papiers, tout ça. Et finalement, on s'aperçoit que même à la gauche de la gauche, il y a encore des combats pour l'argent roi, le PC veut pas perdre son argent, et moi, je suis communiste, donc je suis déçu, quoi, je veux dire. Ça me dégoûte, quoi. Qu'il y a encore des combats pour l'argent roi, que le PC veut garder ses trucs, que la LCR veut garder ses trucs. C'est vraiment ridicule, quoi. En plus, je veux dire, moi, j'étais au meeting de Grenoble, là, où, justement, ils étaient tous encore. Et je sais pas, j'ai discuté avec Clémentine, Autain, et je sais pas, moi, je pense qu'il y a pas mal de gens, de personnes, moi, je m'en fous du candidat, je veux dire. On peut prendre un bébé, la photo d'un bébé, si on veut. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est le projet, c'est ce qui va construire la vie des hommes et des femmes à partir d'aujourd'hui, pour demain et pour l'avenir, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir si c'est Marie-Georges, José, Olivier, enfin. Et moi, là, je suis déçu, je vais arrêter de voter, quoi. Voilà. Si ça sert à rien de voter, si on n'est pas capable de s'en faire, je suis déçu de chez déçu, quoi.
Salut, puisqu'il est de mise d'être vigilant sur le répondeur de la base, j'y suis. Je commencerai par dire qu'on est bien en Europe, on est bien en 2006, et que la peine de mort a été abolie dans toute l'Europe. Ceci dit, je viens d'entendre une information, enfin le traitement d'une information sur France Inter aux informations de 19h, ce vendredi 24, au sujet de ce jeune hooligan abattu par un policier et un autre blessé par ce même policier dans un contexte apparemment d'injures racistes et antisémites. Pendant 7 minutes, la mort de ce jeune homme a été évoquée, donc, et pendant 7 minutes, ça a été noyé dans un océan de diabolisation de ces jeunes. Des jeunes hooligans dont certains sont d'extrême droite, supporters du PSG donc. Ça a duré 7 minutes. Le journaliste a parlé d'une meute de hooligans, une meute. On est loin de Karcher et de racailles, hein, une meute, on est dans la déshumanisation. 7 minutes de diabolisation, indifférence totale en ce qui concerne la mort de ce jeune. Peut-être une ordure, sans doute, peu importe. L'enquête le dira. Indifférence même de la part des associations qui font profession de tolérance, de vigilance et d'antiracisme, qui ont été interrogées, comme le CRIF. Pas un mot sur la mort du jeune. Indignation, par contre, sur les injures racistes et antisémites, etc. Pas un mot sur la mort du jeune en ce qui concerne le président de SOS Racisme. Par contre, également, indigné par la nature violente et soi-disant d'extrême droite de certains supporter du PSG. Ça a duré 7 minutes. 7 minutes d'indifférence totale en ce qui concerne la mort de ce jeune. Une indifférence que je me suis même surpris moi-même à éprouver en ce qui concerne la mort de ce jeune homme d'extrême droite, supporter du PSG. Est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que c'est grave, encore une fois, au regard de ce que j'ai dit au début, à savoir qu'on est dans un contexte d'abolition définitive de la peine de mort en Europe ? Salut, c'était Franck Dumont.
Eh bien, merci, merci, merci. Je viens de passer un excellent moment à visionner le diaporama sur l'émission Retour en Afghanistan. C'est formidable. Merci pour le travail que vous faites. Et merci.
Eh bien, merci à vous. En effet, on a fait pour la première fois dans l'histoire de la base, si j'y suis, un diaporama en images et en son sur le site labas.org, la-bas.org. Voilà, il est en place depuis hier, ça fait un tabac et on est très content. Et c'est le premier, hein. Alors, c'est pas tout à fait parfait. Enfin, c'est une façon de revenir un peu sur cette suite de reportages, cette fois en images. Merci à cet auditeur sur l'analyse à chaud qu'il essaye de faire sur ce qui s'est passé au Parc des Princes. Beaucoup évidemment de messages sur ce sujet reliés aux émissions qu'on vous a présentées sur l'histoire des bagagistes de Roissy. Enfin, on est dans il y a des rapprochements qui sont faits, pas toujours d'ailleurs très très judicieux. Certains sont assez futés. Enfin voilà, on peut pas non plus passer notre vie à diffuser des messages, sinon nous n'aurions plus de boulot. Il faut quand même qu'on se défende contre vous. Là, il y a quand même une lutte assez sérieuse. Mais là, voilà un message que vous nous avez adressé, enfin qu'un auditeur a adressé, suite à une émission qu'on vous a présentée le 27 octobre dernier, dans l'affaire des Roms de Béziers. Je vais vous la résumer pour que vous compreniez le message. En 2004, des Roms de Yougoslavie, 70 personnes au total, des familles, s'installent à Montpellier sur des terrains qu'ils ont achetés. Ce sont des terrains inondables, et donc ils les habitent de façon précaire. Or, le maire de Béziers s'oppose à la scolarisation des enfants au prétexte qu'ils habitent des terrains inhabitables. Donc, il considère que si vous habitez des terrains inhabitables, eh ben, donc, vous n'habitez pas ici. Voilà. C'est un petit peu bancal, mais c'est quand même le raisonnement qu'il tient. Un collectif de défense des enfants se constitue, qui porte l'affaire devant le tribunal administratif, et le tribunal administratif donne tort au maire et oblige à la scolarisation d'un certain nombre d'enfants. Mais c'est pas fini, parce que tous les enfants ne sont pas encore scolarisés. On en était là de notre reportage. Or, voilà, les suites de ce reportage dans un instant, vous allez en avoir des... La suite, les nouvelles et le dénouement dans un des messages à venir. Je voulais vous dire que aujourd'hui, avant d'écouter ce message, aujourd'hui on va retrouver Éric Hazan. Éric Hazan, vous voyez, c'est un écrivain et c'est un éditeur qui a créé les éditions de La Fabrique. Et là, on va passer cette heure autour d'un petit bouquin qu'il sort ces jours-ci et qui s'appelle Note sur l'occupation et trois noms de villes de Cisjordanie, Naplouse, Qalqilia et Hébron. C'est un carnet de route, c'est un grand reportage qui est, vous allez voir, en écho là aussi avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, toujours le Proche-Orient, l'épicentre du chaos. Edgar Morin avait parlé d'un cancer avec des métastases, ça lui avait d'ailleurs... Cette métaphore lui avait coûté très très cher, mais elle est pourtant judicieuse. Et on va voir une fois de plus que tant qu'on n'aura pas une solution au Proche-Orient, toutes les craintes et la peur qui règnent actuellement d'un embrasement généralisé du Proche-Orient et du Moyen-Orient restera très très vive. Et donc toute la question est là, voilà pourquoi nous écoutons cet entretien avec Éric Hazan. Mais auparavant, on ne perd pas toujours des nouvelles de Béziers et d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ziegener Plague, le fléau Ziegen. C'est ainsi que le 17 octobre dernier, Daniel a intitulé le reportage de Pascal Pascariello sur les Roms de Béziers, et particulièrement sur le refus du maire de cette ville d'en scolariser 11 enfants. Pour votre information et celle des auditeurs, sur la suite des événements, le groupe de soutien aux Roms, par mon intermédiaire, vous fait parvenir quelques précisions. Après avoir obtenu du tribunal administratif de Montpellier qu'il enjoigne au maire de respecter la loi et d'inscrire 6 des 11 enfants pour lesquels nous avions déposé un recours, pensant que ce qui vaudrait pour les 6 vaudrait pour les 11, le maire s'exécutait, mais refusait d'inscrire les 5 restants. Nous avons alors engagé une nouvelle procédure contre la mairie, mais également contre la préfecture en lui demandant de se substituer au maire. Le tribunal devait se prononcer le 17 novembre, mais 3 jours avant, la préfecture a préféré intervenir pour inscrire d'autorité ses 5 enfants. Nouveau camouflé donc pour le maire de Béziers, mais surtout et enfin, tous les enfants de la famille Rome, domiciliée route de Maraussan, fréquentent enfin l'école publique et républicaine, école qu'ils fréquentent régulièrement et où ils s'intègrent rapidement avec le soutien appuyé des enseignants. Grâce au Conseil général de l'Hérault, à travers l'aide sociale à l'enfance, les travailleurs sociaux et les conseillers généraux, tous ces enfants déjeunent à la cantine, assurés ainsi d'avoir au moins un repas équilibré chaque jour d'école. Restait le problème du transport, puisque l'école du secteur ne pouvait pas les accueillir, faute de place. Pour les conduire à leur école, à l'autre bout de la ville, des personnes de bonne volonté se sont mobilisées et ont assuré le transport quotidien pendant 2 mois, jusqu'à ce que le Conseil général de l'Hérault, exemplaire à la circonstance, le prenne en charge. Ainsi, dorénavant, tous les enfants scolarisés loin de leur école sont transportés en bus. C'est donc enfin pour ces enfants et leurs familles la fin d'une discrimination parmi toutes les autres, mais que à chaque jour suffit sa peine et que nous resterons actifs et vigilants. Merci en tout cas à vous tous, d'autant que nous savons combien ce reportage a été précieux dans l'éveil des consciences face à cette épouvantable perpétuation du réflexe anti-Rome. C'était Nicolas de Béziers.
Oui, bonjour, c'est Sophie de Montauban. Alors j'appelais pour vous informer qu'aujourd'hui il y a une expulsion. Nous sommes à l'aéroport de Blagnac et c'est un ressortissant géorgien, père de 2 enfants. Il passera par Munich pour rejoindre la capitale de la Géorgie. Voilà. Nous sommes totalement révoltés par ce qui se passe actuellement en Tarn-et-Garonne, où c'est des expulsions au fur et à mesure quotidiennes, des arrestations arbitraires quotidiennes qui mènent au centre de rétention et à des expulsions. On est en train de détruire des familles entières par ce phénomène. Donc il faut faire, faut se bouger, faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Mais merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Alain dans le Médoc, à Sissac-Médoc. Voilà, je tenais à vous rappeler une information qui est quand même importante, surtout vis-à-vis des gens qui n'ont que pour information la Vox Populi, croyant que la CAF ne donne de l'argent qu'aux immigrés, aux Noirs et aux Arabes. Eh bien, hier, sur FR3, il y a eu quand même une information importante qui n'a été reprise par personne d'autre, qui concerne la fille de M. Pinault Valenciennes, qui, en fait, touche depuis de nombreuses années le RMI, alors qu'elle paye l'impôt sur la fortune. C'est quand même formidable. Ce que j'espère le plus, c'est que la présentatrice du journal de FR3 qui a dévoilé la nouvelle hier soir ne subira pas la même punition que celle infligée par notre bon Nicolas aux journalistes de Paris Match. Vous savez, Nicolas, le cocu national qui risque de vous amener pomponnette à l'Elysée, alors que dans le film de Pagnol, il n'était que dans la boulangerie. On n'arrête pas le progrès. Allez, au revoir. C'était Alain. Au revoir.
Il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions pour enrichir les actionnaires Natixis. Pour grossir le bas de laine de leurs actionnaires, Natixis, propriétaire des bas Écolanvel, délocalise sa production. Main-d'œuvre française trop chère pour un groupe qui compte 534 milliards d'euros d'actifs, soit 2 fois le budget de la France. Il y a des hommes et des femmes, aujourd'hui dans le Gard, au Vigan, 300 qui viennent d'apprendre leur licenciement par Natixis. Il y a des hommes et des femmes qui détruisent des vies. Ce sont les experts de Natixis. Au revoir, Daniel, et puis bon courage.
Salut Daniel, salut à tous les amis de la Basse, si j'y suis, c'est Jocelyn de Morlaix. Donc un petit message pour rappeler que comme tous les quatrièmes mardis du mois, se tiendra le repère de la Basse, si j'y suis à Morlaix, au Tempo, Café Tempo, à partir de 20h, donc le mardi 28. Donc voilà, à bientôt, Kenavo.
Salut, c'est Daniel Mermel à Bassi, j'y suis avec Eric Azan, note sur l'occupation, Naplouse, Qalqilia, Hébron.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, c'est pas un gros livre, Eric Azan, hein, c'est pas un gros livre. 7 euros, c'est un livre qui n'est pas cher, qui fait 120 pages, voilà, et qui s'intitule « Note sur l'occupation ».« Note sur l'occupation » et en dessous « Naplouse, Qalqilia, Hébron ». Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un reportage. Pour moi, c'est un reportage, c'est-à-dire un reportage au sens où Albert Londres était reporter, il faisait des reportages. Est-ce que ça vous va, ça, cette...
Oui.
Oui, bon, doucement.
Non, c'est un honneur. En fait, j'avais très peur en partant de pas être capable de faire ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, puis je me suis dit, après tout, si tu n'es pas capable, ben c'est pas très grave. Tu reviendras et puis tu mettras tout ça à la poubelle.
Quelle était l'intention ? Note sur l'occupation. Et alors, Naplouse, Qalqilia, Hébron, c'est la Cisjordanie.
Oui, c'est trois villes, trois exemples très différents l'un de l'autre de cette occupation. C'était ça mon but, c'était de montrer, d'abord de comprendre moi-même, ensuite d'essayer de faire comprendre aux gens le mécanisme quotidien de cette espèce de grande machine militaire ou bureaucratique qu'on désigne sous le terme, au fond, assez abstrait de occupation. Et en réalité, on n'en parle jamais de cette quotidienneté. Et j'ai choisi ces trois villes parce que, vu d'ici, elles me paraissaient être, d'après ce que j'en avais entendu, trois formes très différentes par la géographie, par l'histoire, par le caractère de la ville. Naplouse, c'est une ville encerclée, complètement encerclée, dans ses collines, avec des camps militaires tout en haut, les routes, les issues fermées par les checkpoints. C'est une ville qui vit encerclée. Qalqilia, c'est différent, c'est une ville qui est complètement entourée par le mur, alors que Naplouse, il n'y a pas de mur, il est loin le mur, il est enfin loin, rien n'est loin là-bas, hein. Les distances sont toutes petites. Mais Qalqilia est une ville entièrement entourée par le mur sur 340 degrés. Et c'est une ville qui est dans une région complètement quadrillée. Complètement, on peut dire, annexée. Les Palestiniens vivent dans des enclaves. Et le processus d'annexion est très avancé dans ce coin-là. Ce qui n'est pas illogique du reste, car Israël est primitif. Israël, disons, avant la guerre de 67. À cet endroit-là, il fait 15 km de large. Des villages perchés qui entourent Qalqilia, au loin, quand il fait beau, et heureusement là-bas il fait souvent beau, on aperçoit les gratte-ciels de Tel Aviv. Ce qui d'ailleurs ne manque pas d'être assez troublant. Et puis alors Hébron, en bas, au sud, Hébron c'est une ville du sud, pas loin de la frontière avec le Negev. C'est une ville où la vie est rendue infernale par la présence au centre de ville de 400 colons, protégé par l'armée, dans une partie de la ville qui est annexée. Et ces 400 fous furieux, on peut le dire, sans être méchants, qui lâchent leurs chiens sur les enfants, qui arrachent les cartables des filles, qui leur arrachent les voiles, qui les font tomber dans les escaliers, ces gens-là rendent la vie aux 130 000 habitants d'Hébron complètement impossible.
Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom aleichem.
Hébron, 1998. Vous avez votre châle de prière à la ceinture et un revolver de l'autre côté. Ça fait la religion et la guerre.
We, some of us here are armed. Because unfortunately, there are times when we have to protect ourselves and defend ourselves.
Certains de nous sont effectivement armés parce que malheureusement, il y a des moments où on doit pouvoir se défendre.
A couple of hours ago, I was here with tourists, and rocks were thrown at us.
Il y a quelques heures, j'étais ici encore avec des touristes et on nous a jeté des pierres.
Vous vous sentez persécuté ici?
It's not a question of persecution, but we're not allowed to live normal lives peacefully.
C'est pas une question de persécution, mais on ne peut pas vivre une vie normale en paix.
I'll tell you something. The conflict here in the Middle East, contrary to what other people think, is not political.
Je vais vous dire quelque chose. Le conflit ici au Proche-Orient, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ce n'est pas un conflit politique.
The conflict here is a religious conflict.
C'est un conflit religieux.
And you know, it's very difficult for people to compromise about religion.
Et c'est très difficile de faire des compromis pour ce qui est de la religion.
Donc vous restez.
Of course we stay.
Bien sûr qu'on reste.
If I don't have a right as a Jew to live in the first Jewish city in Israel, then what right do I have to live in Tel Aviv or in Haifa or anywhere else?
Si j'ai pas le droit en tant que juif de vivre dans la première ville juive d'Israël, alors quel droit j'ai d'aller vivre à Haifa, à Tel Aviv ou ailleurs?
Alors, mais quelle était votre motivation au départ? Parce que quand vous êtes à Qalqilia, incidemment, vous dites c'est là que ma mère est née il y a 99 ans. Et puis je sais parce que...
Pas à Qalqilia. On est à 10 km de l'endroit, de l'endroit où est née ma mère. Oui.
Bon, voilà un repère quand même important.
Oui.
Et puis, c'est pas la première fois que vous allez dans ces régions.
C'est vrai. C'est vrai. Ça fait longtemps que la cause... Pas palestinienne, la cause d'une paix juste dans cette région m'intéresse au plus haut point. Je pense que c'est à la fois une séquelle d'un vieux passé anticolonialiste qui remonte aux années 60, à la guerre d'Algérie, dans laquelle je me suis trouvé trempé aussi, un peu, pas mal.
Oui, vous dites trempé, mais vous voulez dire impliqué.
Impliqué, oui. Juste. Et donc, il y a un passé anticolonialiste.
Dans quelle mesure, dites-nous?
J'ai fait un peu la boîte à lettres. Et puis, au moment de l'indépendance, je suis parti avec un groupe de médecins qui avaient été comme moi ce qu'on a appelé après des porteurs de valises. En fait, j'ai jamais porté de valise, mais bon. On a pallié l'absence soudaine, le départ brutal de tous les médecins français d'Algérie, ou quasi tous. Dans sa grande œuvre colonisatrice, la France n'avait pas formé de médecins algériens. Donc il n'y avait plus de médecins du tout.
Il faut dire en note en bas de page que dans vos nombreuses vies antérieures,
ah oui,
vous avez été médecin.
Chirurgien.
Et chirurgien, d'accord.
Voilà. Oui, c'est vrai, il faut le dire, sinon on comprend rien. Donc on est parti à une quinzaine et on a fait la jonction, on s'est relayé en attendant l'arrivée des médecins des pays de l'Est.
Mmh. Et la Palestine et le...
Ben, la Palestine, c'est une espèce de suite de ce passé-là, puis aussi, en réalité, beaucoup lié au fait que je suis juif. Et ce qui se passe en Israël-Palestine, l'action des gouvernements successifs de l'État d'Israël depuis toujours, c'est censé se faire en mon nom, puisque c'est l'État des Juifs du monde entier. Donc, je suis embarqué, moi, là-dedans. Et je voudrais, par mon action minime, microscopique, au moins me démontrer à moi-même que je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh. Je pense que je suis plus impliqué dans l'affaire de Palestine que je ne l'ai été dans l'affaire du Vietnam. Pour l'Algérie, j'étais français. J'étais impliqué en tant que français. Pour la Palestine, je suis impliqué en tant que juif.
Alors, pourquoi avoir choisi seulement la Cisjordanie? Il y a Gaza aussi quand même, qui est une partie importante.
Un autre livre.
Et puis alors surtout, vous arrivez là et pof, on va tout droit en Cisjordanie. Israël, ce sera pour une autre fois.
D'abord, je ne pouvais pas partir 6 mois. Et puis ensuite, c'est un autre... Gaza, c'est une autre situation, c'est un autre livre. Tout aussi intéressant du reste. Hein.
À faire, ah oui.
Ah oui. Je ne dis pas qu'un jour... Hein. Non, mais c'est une autre affaire, aujourd'hui, hein, aujourd'hui. C'est une autre affaire. Et Israël, c'est encore une toute autre affaire. Alors là, vraiment, je connais pas bien Israël. Ou plus exactement, les Israéliens que je connais ne sont pas représentatifs de la majorité du pays. Ce sont des gens qui travaillent tous les jours avec les Palestiniens, qui les connaissent par leur prénom, dont beaucoup consacrent leur vie, à leur risque et péril, à la réconciliation et la véritable paix.
Mais quel a été votre sentiment, justement, puisqu'on est en train de parler de ce lien
Bon, on sait bien, on en a souvent parlé dans nos émissions, de tous ces militants de la paix, on va les appeler comme ça d'un seul mot, qui tâchent de trouver des liens, des échanges, des luttes communes avec avec les Palestiniens, alors que finalement, le principe général, c'est de séparer le plus possible les uns et les autres. Vous avez publié les reportages d'Amira Haas, la reporter du Haaretz, qui est une des seules, sinon la seule journaliste israélienne à vivre en territoire palestinien. Il y a aussi Gideon Levy parmi les grands reporters qui vont dans les territoires. Enfin, la règle générale, c'est on s'ignore totalement. En tous les cas, les Israéliens ignorent les Palestiniens.
À un point incroyable.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé comme autre lien entre les uns et les autres, indépendamment de ces liens militants?
Ils sont très faibles. Les Israéliens, d'abord, chose que on ne sait pas forcément, n'ont pas le droit d'aller dans les territoires. La loi israélienne le leur interdit. En fait, s'ils y vont, ils courent pas grand risque. Ils pourraient y aller. Beaucoup y vont, d'ailleurs. Mais la masse des gens dit, mais on n'a pas le droit d'y aller. Et puis, alors finalement, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Moi, quand je suis revenu et que j'ai été invité à dîner par des Israéliens pendant les 2 ou 3 jours que j'ai passés avant mon retour, ce que je leur racontais les sidérait, les intéressait, mais les étonnait énormément.
Alors que vous aviez passé un mois en Cisjordanie, quoi,
oui,
en fait,
oui.
Trois villes.
Hein. Oui. Ils ne savent pas la situation. Ils ne connaissent pas la situation. Bien que la presse soit excellente, avec les journalistes que vous avez cités, et même d'autres. La presse écrite est bien meilleure là-bas qu'ici.
Tout à fait, oui. Oui. Alors, Naplouse, premières impressions?
Une ville formidable. Détroit, c'est certainement... S'il me fallait aller y vivre, c'est celle que je choisirais sans hésiter. Bien qu'elle soit encerclée, bien qu'on ne sorte pas, bien que l'armée rentre tous les soirs... soit dans le grand camp de réfugiés de Balata, soit dans la vieille ville, qui est un refuge pour les proscrits, parce que c'est une sorte de labyrinthe, la vieille ville, la Casbah de Naplouse. C'est très beau, d'ailleurs. Ça serait très beau. Mais il y a une vraie société dans cette ville, du fait que, justement, qu'elle est complètement close. Les gens vivent les uns avec les autres. Le mot de société, dont on a un peu perdu le sens ici en France, là-bas, il a une véritable signification. Une solidarité aussi, qui est un mot que je n'aime pas du tout quand il s'agit de la France, parce qu'on ne sait pas de qui avec qui, c'est un mot complètement creux. Là-bas, c'est un mot qui reprend son sens. Et une ville sans police, ce qui n'est pas du tout neutre. On n'a pas l'habitude d'une ville de 150 000 habitants sans police. Mmh. Et au fond, aussi sûr qu'une autre, hein, ce qui montre bien, à contrario, à quoi sert la police. Mmh. Une ville résistante, très résistante. Une ville qui a encore vraiment un fighting spirit magnifique. C'est une ville qui n'est pas triste, à la différence des deux autres, Qalqilia est sinistre. Qalqilia était une ville autrefois très prospère parce que c'était une ville de maraîchers. Et comme elle était le long de la grande route qui longe Israël de tout au sud à tout au nord, grande route rapide, les Israéliens venaient faire leurs courses là. Ils venaient acheter les carottes et les melons à Qalqilia. Et le mur, naturellement, les a non seulement amputés de leur terre, mais en plus amputés de leurs clients. Oui. Donc c'est une ville ruinée, municipalité Hamas, qui se débrouille assez bien d'ailleurs. J'ai demandé à un type de Hamas, qu'est-ce que vous faites, de la mairie, hein, que faites-vous pour aider ceux qui n'ont plus rien? Ah, il m'a dit, mais... c'est pas compliqué. On incite les gens qui ont de l'argent à prêter à ceux qui n'en ont pas. Et on garantit les prêts. À des taux très bas, les seuls que l'islam autorise. Donc, on organise la solidarité. On force personne. On incite. Et puis, on a ressuscité le fonds des pauvres. C'est-à-dire que ceux qui peuvent plus payer la taxe pour l'eau, pour l'enlèvement des ordures, pour l'électricité, ils payent pas. On paye pour eux. On se débrouille.
Voilà le mur. Alors là, c'est le mur version béton. 7 mètres de haut. Et il y a tous les quelques centaines de mètres un talus qui est exactement à la hauteur. C'est-à-dire lorsqu'une Jeep monte sur le talus, sa mitrailleuse lourde est exactement à la hauteur du mur. C'est pour tirer de l'extérieur sur l'intérieur, puisque de l'autre côté du mur, on a la ville de Qalqilia.
Israël 2003.
Et il y a aussi, tous les quelques centaines de mètres, un mirador, c'est ces tours à Kerstein. Des tours construites par la compagnie Ackerstein, comme le mur d'ailleurs, c'est une compagnie de béton.
Israélienne.
Mais comme ils ont une chaîne de production, il y a trop de tours. Alors maintenant, il y en a partout dans le pays, on met des tours, ces genres de tours très hautes, très moches. C'est des éléments composés, on peut la faire deux fois plus haute, trois fois plus haute.
Modulable.
Et à l'intérieur, il y a une petite salle de bain. On peut vivre dans cette tour. Et ils sont très fiers, c'est qu'on peut tirer 360 degrés.
Ah. Mais là, ça y est, c'est en activité. Là,
c'est en activité, tout à fait. Ici, Qalqilia n'est pas encore entièrement le mur définitif, qui est aussi composé ici d'un mur, mais plus loin d'une barrière, n'est pas entièrement terminé, mais la ville est bouclée. Il y a une entrée à l'est de la ville, qui est la seule. C'est une ville qui est entièrement encerclée, sauf une porte. Et la deuxième ville, qui est au bout de cette route, encore 15 km, la deuxième ville complètement encerclée par un mur, sur l'autoroute aussi, c'est la ville de Qalqilia.
Eric Kazan, vous parlez du Hamas. Depuis le succès du Hamas, on a l'impression que les mouvements en France et l'opinion française, la partie de l'opinion française qui est sensible au sort des Palestiniens ou qui soutient les Palestiniens est assez embarrassée par cette histoire du Hamas qui est au pouvoir. Parce qu'il faut bien dire que parmi ceux qui soutiennent les Palestiniens depuis longtemps, pour les raisons historiques que vous dites, il y a quand même pas mal de laïcs français qui soutiennent. Donc je les sens un peu embarrassés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien... J'étais mitigé en partant, parce que moi je suis un laïc marxiste, tout ce que vous voudrez, irreligieux. Et puis j'ai vu ces gens-là, c'est ceux que j'ai cherché le plus à voir. Et puis, pour éviter le discours convenu, je les attaquais frontalement, en disant « En France, on dit que vous êtes des fanatiques religieux, que vous allez installer la charia, que vous allez supprimer les droits des femmes ». Et que vous cherchez à transformer la Palestine en un État théocratique. Eh bien, ça ne les démonte pas, et ce n'est pas des propos pour les étrangers de passage, vu qu'il n'y a pas d'étrangers de passage. Il me disait, écoutez, nous avons été élus par un peuple qui est un des peuples les moins religieux du Proche-Orient. Les Palestiniens sont très peu religieux, traditionnellement. Donc on n'est pas fous. On n'a pas du tout l'intention de transformer des gens qui ne sont pas religieux en religieux. Pour nous, la religion est une affaire privée entre l'homme et Dieu. Et en ce sens, nous nous distinguons fortement et clairement des talibans et autres. Ils sont clairs là-dessus. Vous savez, ces gens-là, l'impression qu'ils m'ont faite, ils m'ont fait penser... aux administrateurs communistes des communes de banlieue dans les années 50. Avec le même sérieux, la même efficacité, le même manque d'humour. Hein, les gens du Hamas ne rigolent pas, alors que les Palestiniens, dans l'ensemble, sont des gens très drôles. Oui. Les gens du Hamas, ils vous reçoivent à l'heure, ce qui n'est pas du tout la norme, et ils vous disent, voilà, on a 20 minutes. Et en 20 minutes, on discute. J'ai trouvé des gens... très peu pittoresques et qui m'ont paru très responsables avec un discours qui est vraiment un discours tout à fait recevable. Le Hamas est complètement caricaturé dans les médias occidentaux.
Mais le Hamas ne veut pas l'État d'Israël.
Alors, ça c'est une question très importante.
Quand vous dites que le discours est recevable, là
attendez.
Le répondeur est en train de chauffer.
Une seconde. Ils ont été élus pour deux raisons. Ils ont été élus parce que ils ne sont pas corrompus, alors que tout le monde sait que les candidats du Fatah, dans leur majorité, étaient des corrompus. Et la deuxième raison essentielle, c'est que c'est des gens qui ont dit, nous, on sait dire non. Les concessions faites par le Fatah depuis Oslo. Oslo est à la base de tous les malheurs qui sont tombés depuis sur ce pauvre peuple. Les concessions ont mené à la situation actuelle, c'est-à-dire... à reculer par rapport 1993, date de la signature des accords d'Oslo. La situation actuelle est bien pire. Donc le Hamas il dit, nous, on ne fait pas de concessions, il n'y a rien à négocier. Mais si Israël revient sur la ligne de l'armistice de 48, c'est-à-dire la ligne verte, la ligne juste avant la guerre de 67, si Israël revient là-dessus, nous on est d'accord pour faire un État palestinien sur cette base-là.
Donc ça revient à reconnaître l'État israélien.
Évidemment.
Ouais, d'accord.
La nature ayant horreur du vide, si eux disent, nous on est d'accord pour un État palestinien sur la ligne de 67, ça veut dire qu'on est d'accord pour un État juif de l'autre côté.
Donc, il y a une reconnaissance possible. Ah, mais ce que veut le Hamas, c'est ne pas subir l'agenda israélien.
Les promesses. La phase 1, la phase 2, 3, le retour, la table de négociation, le plan de route, le processus de paix. Tout ça, ils ne veulent plus en entendre parler. Ils disent, revenez sur la ligne 67. Nous, les promesses, les échéances, les plans en 6 phases qui ne sont jamais exécutés, ça, c'est non. Voilà.
سجنين انا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونها احمر غيمة ابيض بالنص جمد زكراك انت بغير انا صامت عايش متفائل ما تعزلني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض تدور شجر زيتون ضل يتولد وجدد قصور الغصن ممدود للسلام الغصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما اله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحريه من السجون المعنيه انه نكون معيون اللي دايما معميه من التفرج اطفال العالم الحره دايما نضل بتدحرج للحياه المره قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوه عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياه عملنا بلطف ومش بعسف للحياه انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا ناخذها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حره وانا مالي انا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود فجني الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود فجني الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود فجني الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي
Je rappelle le titre du bouquin d'Éric Azan, Notes sur l'occupation Naplouse, Qalkilia et Hébron. C'est comme un long reportage avec des croquis, hein, ou dessinés, oui. Quelques photos. Les photos, faut s'approcher parfois parce que c'est quand même assez petit, mais ça veut être un petit bouquin qu'on met vraiment. Ça, c'est un vrai bouquin, un livre de poche, là, pour le coup.
Oui.
Pas cher du tout, à 7 euros. Un grand reportage dans un petit livre, alors que vous n'êtes pas reporter. Par contre, les livres, vous savez les faire depuis longtemps. On va en parler. Mais, vous êtes tombé un petit peu à côté, sans vouloir vous offenser, parce que c'était après qu'il fallait venir. C'est quand ça pétait à Gaza, c'est quand ça pétait au Liban. Donc, vous venez dans un moment où, disons, entre guillemets, rien ne se passe.
Ouais, on ne tue pas plus d'une demi-douzaine de jeunes gens par semaine en Cisjordanie pendant cette période calme, quoi. Cette période très calme. Mais je suis content d'être passé à ce moment-là. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les événements dramatiques. Il n'y en a pas eu. C'était pas de faire mon Bernard-Henri Lévy. C'était pas de...
On avait remarqué, c'est assez clair, oui.
Oui. Non, j'avais pas envie de, de montrer à quel point j'étais un baroudeur. Je suis très content, j'ai horreur des baroudeurs. Je suis très content que cette période était une période calme et elle correspondait tout à fait au but que j'avais qui était montrer le quotidien de l'occupation.
Comment les Palestiniens font pour tenir face à ce harcèlement quotidien, ces barrages, ces difficultés de toutes sortes?
Terriblement aggravé par le boycott du gouvernement élu depuis son élection. C'est-à-dire ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, la communauté internationale dans l'Europe est coupée les vivres aux Palestiniens sous prétexte qu'ils n'ont pas élu ce qu'il fallait. Ça a créé une situation terrible parce que les salaires des fonctionnaires étaient une des grandes sources de revenus du peuple palestinien. Or, ils ne sont pas payés depuis maintenant le mois de février. C'est-à-dire, ça fait bientôt un an que les salaires ne sont pas payés. Les prisonniers, les familles de prisonniers touchaient ce qu'ils appelaient un salaire. C'était déterminant parce que d'une part, souvent, celui qui était en prison était le gagne-pain de la famille, le papa. Mmh. Et d'autre part, pour vivre en prison, il faut de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on mange des pommes de terre pourries avec des cafards dedans. Donc ces gens-là ne reçoivent plus d'argent parce que leurs familles n'ont plus un sou. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les prisonniers ne reçoivent plus l'argent. Les projets financés par les grandes ONG internationales sont arrêtés. C'est une situation terrible.
Comment font-ils pour tenir ces Palestiniens depuis si longtemps? Parce que là, on parle de survie, on parle de difficultés de quotidienne, etc. Mais au fond, comment font-ils pour tenir comme peuple?
Je pense qu'un des éléments qui n'est pas nul, c'est la diaspora. Les Palestiniens ont une diaspora assez nombreuse. Je ne parle pas des malheureux qui croupissent dans les camps de réfugiés du Liban. Mais il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent avec des situations qui sont parfois bonnes dans le Golfe, en Jordanie, ou en Australie ou au Chili. Ils envoient de l'argent. Dans l'immeuble où j'étais à Naplouse, il y avait un type que les autres, pour rigoler, appelaient grand bourgeois. Il avait une scierie. Cette scierie travaillait au cinquième de ses capacités, donc pas rentable. Mais cette famille avait construit une ville entière en Jordanie. Et les autres là-bas envoyaient de l'argent pour que le grand bourgeois de l'immeuble continue à faire tourner sa scierie pour pas que les 20 ouvriers, c'est-à-dire au fond les 100 personnes, 20 ouvriers, 20 familles, 100 personnes, pour que ces gens-là continuent à pouvoir manger. Je pense que ça joue beaucoup.
C'est drôle parce que depuis qu'on parle, on n'a pas encore employé l'expression conflit israélo-palestinien. Parce que pour vous, c'est pas un conflit.
Oui,
c'est pas un conflit israélo-palestinien.
D'abord, le mot de conflit est tout à fait impropre. Pour avoir un conflit, il faut quand même qu'il y ait deux forces vaguement commensurables en présence. Or là, c'est pas un conflit, c'est l'occupation d'un pays par un autre. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit entre la Russie et la Pologne en 1880, ni entre la France et l'Allemagne en 1942. Il n'y a pas de conflit. Il y a une occupation, c'est pas pareil. Ça, j'utilise. Il faut bannir les mots qui établissent une notion de symétrie. Le conflit en est un, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, non.
Quand on part comme ça dans un reportage ou avec la démarche que vous avez eue pour ce carnet de route, enfin note sur une occupation, vous avez beaucoup de choses vues, hein, il y a des dialogues.
Avec des gens magnifiques.
Oui, justement. Quelles ont été c'est une question simple, mais ça fait rien, je la pose quand même. Quelles ont été les parce qu'on part toujours avec des idées, vous êtes un intellectuel, donc oui, enfin. On a tendance, on peut quand même vous soupçonner d'aller vérifier ce que vous croyez déjà, mettre un peu de chair sur des certitudes et sur des concepts, c'est quand même le défaut des intellos. Là, non, dites-nous un peu ce qui vous a fait dérailler, en quoi est-ce que vous êtes parti avec un but, avec des idées, et je vous connais un peu, donc je me dis, il a dû dérailler le père Azan. Alors qu'est-ce qui vous a fait un peu dérailler, changer de point de vue, soit par des choses que par des rencontres étonnantes ou par des trucs décevants?
Je dirais que, oui, j'ai déraillé sur deux choses. Enfin, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'opinion sur deux points très importants. Le premier, c'est la notion de mur. Je savais bien que le mur faisait 700 km alors que la ligne verte en fait 200, que par conséquent cette différence de 500 km elle est liée au fait que le mur fait des grands zigzags, des grandes boucles pour entourer telle colonie, pour exclure telle autre. Enfin, c'est un mur qui a pas du tout l'objectif de défendre Israël contre le terrorisme, mais plutôt d'accaparer le maximum de terres utiles. Ça, je le savais. En revanche, je vivais quand même sur l'idée que un mur, c'est une ligne, comme le mur de Berlin, ou comme le mur que les Américains sont en train de construire avec le Mexique. Une ligne avec deux espaces de part et d'autre de cette ligne. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, eux chez eux, nous chez nous, ça marche pas, parce que nous chez nous, ça va, mais eux chez eux, il n'y a pas. Car de l'autre côté du mur, il y a tout un réseau. Un réseau qui est fait de routes de contournement, de zones militaires interdites, de colonies, de barrières autour des colonies. Tout ça fait que la Cisjordanie, il y a un grand filet qui est jeté sur l'ensemble du pays à l'intérieur duquel les Palestiniens vivent dans des enclaves entre les mailles de ce filet. Donc, il ne faut pas penser mur avec un espace d'un côté, un espace de l'autre. Il faut penser réseau d'annexion lancé sur la Cisjordanie, dont le mur n'est qu'un des éléments.
Ah, c'est vraiment incroyable cette vision-là. Il est 7h du matin. Ces gens qui sont en train de passer à travers le mur, il y a une gamine qui aide sa mère ou sa grand-mère à passer. Et cette femme est en train d'escalader. Ah oui, c'est une femme assez âgée déjà.
2003.
Et qui est en train de passer.
Là, on a une vue absolument superbe sur Jérusalem derrière. Il fait beau, tout est superbe. Sauf ce mur là de béton, ces plaques de béton avec du barbelé au-dessus, c'est sale, les ordures sont pas ramassées. Là, on est dans Jérusalem Est, donc il y a ce mur qui a été construit, qui continue par là. Et de ce côté-là, c'est quoi ?
C'est très compliqué, parce que à gauche de la route, c'est la Cisjordanie, à droite de la route, c'est Jérusalem. De l'autre côté du mur, c'est la même chose. C'est-à-dire Jérusalem, formellement, continue aussi de l'autre côté du mur, il coupe Jérusalem. Quand à droite de la route, quand on va de ce côté, c'est la Cisjordanie, et de ce côté, c'est Jérusalem. Mmh. Donc il y a des gens qui sont les résidents de Jérusalem, qui sont maintenant exclus de Jérusalem. Et il y a des gens qui sont pas des résidents de Jérusalem, qui se trouvent inclus dans le mur.
C'est incompréhensible. Et ça veut dire qu'il y a des familles qui sont séparées, ça veut dire...
Parfois, selon de quel côté de la rue ils habitent, un des frères peut avoir une carte d'identité bleue, c'est-à-dire une carte d'identité de résident de Jérusalem qui leur permet d'entrer librement du côté israélien, et l'autre frère, parce qu'il était de l'autre côté de la rue, a une carte d'identité orange, et donc il est interdit d'entrer à Jérusalem.
Les bleus et les oranges.
Les bleus et les oranges, c'est très important les bleus et les oranges.
Le deuxième élément qui m'a fait changer d'avis, quand les Israéliens disent, quand Kadima, Sharon et Kadima, disent « on renonce au grand Israël, allez, c'est fini cette histoire, on renonce au grand Israël, on va évacuer les colonies de Cisjordanie. Comme on a évacué Gaza, on va évacuer les colonies de Cisjordanie. Mais, petit mais, comme dans les contrats d'assurance, nous allons garder les groupes de colonies les plus proches d'Israël, ceux qui sont collés à la ligne verte. Parce que ça, bon, c'est déjà chez nous, on va les garder, on donnera d'autres terres en compensation. Alors, tant qu'on n'est pas allé là-bas, ce discours est assez plausible au fond. On dit, mais oui, après tout. En fait, ces grandes colonies, d'une part, ce sont des villes. C'est pas du tout des bâtiments sur des hautes collines avec deux caravanes, trois barbelés, trois chiens. Ce sont des villes, des dizaines de milliers d'habitants. Ariel, Gush Etzion, Guilo sont des villes. C'est comme Fontainebleau, Angoulême ou Barcelonnette. C'est des villes. Donc évacuer ça. Mmh. Et d'autre part, ces fameuses colonies qui sont tout près d'Israël, elles plongent profondément en Cisjordanie. Ariel, le bloc d'Ariel, dépasse vers l'est la moitié de la largeur de la Cisjordanie. Maale Adumim, pardon, qui fait partie du Grand Jérusalem vers l'est, il va pratiquement jusqu'à la mer Morte. Par conséquent, ces colonies-là, si on les laisse, et on ne voit pas comment ils pourraient les démanteler, elles rendent la constitution d'un État palestinien impossible. Enfin, on peut toujours dire que c'est un État palestinien, sauf qu'il sera en plusieurs morceaux, sans continuité entre eux, sans frontières avec l'extérieur, bref, quelque chose qui va beaucoup ressembler au Bantoustan du temps de l'apartheid.
Vos conclusions, qui sont provisoires, hein, c'est toujours provisoire, évidemment, des conclusions par nature.
Surtout là-bas.
Oui, surtout là-bas. Vous dites quand même des choses qui accrochent. Vous dites, j'ai le sentiment que la plupart des Palestiniens ont fait leur deuil d'un État palestinien et qu'on va... Alors là, c'est peut-être un peu... Eric Azan prend peut-être un petit peu ses rêves pour des réalités. On va vers l'État unique. Mais prenons ces deux termes. Hein. Déjà l'idée que les Palestiniens ont fait leur deuil de l'État palestinien. Comment vous êtes arrivé à cette idée ?
Moi, je leur posais la question. Je leur disais, vous n'avez pas l'impression que l'État palestinien, c'est du passé maintenant, qu'il est derrière nous ? L'hypothèse de l'État palestinien, que c'est derrière nous ? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, c'est derrière nous, c'est fini cette affaire. C'est devenu impossible. Parce qu'il est évident que les Israéliens vont pas démanteler ces gros blocs de colonies. Ils peuvent pas. Vous avez vu, vous vous souvenez mieux que moi, je prouve que ça a été de faire partir 8000 colons de Gaza. Là, il y en a 350 000. 40 fois plus. C'est pas possible. Démanteler ces colonies, il faudrait des tanks. Donc, à partir du moment où elles restent, où les colonies sont pas démantelées, l'État palestinien est mort-né.
Et mort-né ne peut pas exister,
ne peut pas fonctionner.
Donc, on va vers l'État unique. À moins de faire disparaître ce dont certains rêvent toujours et à quoi ils s'emploient, de faire disparaître les Palestiniens, qu'ils partent tous, ce qui semble quand même très improbable.
Ou bien, je pense que c'est ça, au fond, qu'est-ce qui sous-tend la stratégie ou l'absence de stratégie actuelle des Israéliens, c'est l'idée que, en leur rendant la vie complètement impossible, un jour ils seront tellement fatigués qu'ils accepteront l'État croupion, l'État palestinien en 5 morceaux.
Le petit Bantoustan.
Le petit Bantoustan. Ils diront, bon, allez, d'accord. On n'en peut plus, d'accord. Je pense que c'est ça l'idée. Un transfert soft pendant ce temps-là, parce que les gens s'en vont.
Est-ce qu'ils s'en vont, les Palestiniens?
Ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont des moyens envoient leurs enfants faire des études à l'étranger. Ça me paraît assez clair. Ça, j'ai vu ça. Alors, la question, c'est, est-ce que ces jeunes gens qui ont la chance d'aller à l'étranger faire leurs études, est-ce qu'ils vont revenir? Ça, c'est problématique. Mmh. Évidemment, ils risquent de ne pas avoir la possibilité d'exercer dans le pays qu'ils aiment, etc. De mettre en œuvre ce qu'ils auront appris dehors.
Alors, pour conclure, provisoirement encore une fois, si, comme vous le dites, les Palestiniens pensent que il faut faire son deuil de l'État palestinien, on va donc vers ce que vous appelez s'il n'y a pas un transfert total, s'il n'y a pas une évaporation définitive des Palestiniens, on irait donc vers un État, ce que vous appelez un État unique.
L'égalité des droits.
D'autres appellent ça encore un État binational, mais laissons ce mot-là qui fâche et qui irrite de côté. Donc on irait vers un État unique, mais à ce moment-là, dans cet État unique, démographiquement, les Palestiniens seraient plus nombreux que les Israéliens, et quid de l'État juif?
Ils deviendraient plus nombreux, parce que là aujourd'hui, ils seraient à peu près moitié-moitié.
Oui, parce que l'État juif ne perdrait pas sa...
Ça ne serait plus un État juif.
Ah.
Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se battre pour un État juif jusqu'au dernier Israélien? Ou est-ce qu'on dit, bon, un État qui disparaît, ça ne serait pas le premier, au XXe siècle, et le XXIe, hein? L'Union soviétique a disparu. C'était pas rien, l'Union soviétique. Sans parler de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de bien d'autres. La disparition d'un État, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est la disparition de ses habitants, de ses citoyens. Je pense qu'il faut privilégier la défense des Israéliens par rapport à la défense de l'État d'Israël.
Ok, changement de casquette, Eric Hazan. On laisse votre bouquin Note sur l'occupation de côté pour parler de l'autre Eric Hazan, qui n'est pas très loin du précédent, c'est-à-dire le patron de La Fabrique, des éditions de La Fabrique. Là, vous avez sorti un certain nombre de bouquins à la rentrée, j'en ai un sous les yeux. Le sionisme du point de vue de ses victimes juives, les juifs orientaux en Israël. Je ne suis pas sûr que ça fasse encore très très plaisir à nos amis sionistes.
Non, ce n'est pas tout à fait dans le courant dominant de la pensée sur le judaïsme et le sionisme, mais c'est un livre très important. C'est un classique d'ailleurs, c'est un article qui est paru en 86 ou 88, je ne me rappelle plus, dans une revue de sociologie très sérieuse américaine. Et l'auteur, Madame Shoat, est une juive d'origine irakienne qui enseigne à New York. Et elle parle de la manière dont sont discriminés les juifs orientaux en Israël depuis le début.
Furent discriminés ou sont toujours?
Furent et sont toujours.
Autre bouquin à La Fabrique dont vous avez envie de parler. Bon, je sais que vous allez parler du Blanqui, de l'Auguste Blanqui, mais avant les autres bouquins, on va en parler. Que vous avez publié, que vous êtes sur le point de publier?
On a publié un très beau livre d'une Argentine qui s'appelle Pouvoir et disparition. C'est une femme, c'est la seule rescapée de l'école de la marine. Uh-huh. Femme.
Ah oui, un lieu sinistre de...
Terrible. Un lieu de torture.
Et
c'est un grand livre de littérature concentrationnaire. C'est au niveau de Primo Levi. C'est aussi beau, c'est aussi poignant que Primo Levi. C'est tout à fait un livre tout à fait extraordinaire, écrit par une femme qui à la fois était témoin et actrice de ça et qui réfléchit sur la théorie de la torture et la disparition.
Et puis donc à apparaître une somme sur Auguste Blanqui.
Oui, un gros livre, 400 pages. Ça s'appelle Maintenant il faut des armes. C'est un extrait d'un texte de Blanqui. Blanqui, c'est pas seulement un boulevard. Peut-être que les auditeurs.
Oui, c'est ce que j'allais
dire. Peut-être que les auditeurs ne voient que le boulevard. C'est en fait le héros, le grand héros du socialisme révolutionnaire français au XIXe siècle. Blessé à sa première manifestation en 1827 sous Charles X, il a pris une balle dans le cou rue Saint-Denis. Et il est mort en 1881. C'est-à-dire, cet homme qui a passé la moitié de sa vie en prison. On l'appelait l'enfermé. Il fait le lien entre Babeuf et plus loin Robespierre, son père était conventionnel, et de l'autre côté, la Commune. Pendant la Commune, il était en prison. Et les communards, qui étaient pour beaucoup des blanquistes, il y avait beaucoup plus de blanquistes que de marxistes pendant la Commune de Paris, ont voulu l'échanger contre tous les otages. Et Thiers, le Versaillais, a refusé parce qu'il savait bien que s'il a lâché Blanqui, la Commune allait être soudain pourvue d'un chef militaire et politique qui risquait de lui donner un impact, un flux irrésistible. Donc Blanqui est resté en prison pendant la Commune. Il n'a été libéré que plusieurs années après, grâce à l'intervention de Victor Hugo et de Clémenceau, qui à l'époque faisait figure de leader de l'extrême gauche. Un des derniers textes du livre, qui était inédit, c'est une lettre à Clémenceau, qui est très émouvante parce que c'est une espèce de flambeau qui lui passe à ce jeune Clémenceau, maire de Montmartre, figure de l'extrême gauche.
Qui n'en restera pas toujours.
Non. Mais à l'époque, il était formidable. Donc voilà, Blanqui, journaliste, homme d'action, chef révolutionnaire, théoricien de la révolution. Il y a un de ses textes qui s'appelle Instruction pour une prise d'armes, qui est un texte formidable.
N'empêche que ça nous ramène presque un autre Eric Hazan, qui est un piéton de Paris. Hein. Vous êtes un bon connaisseur de la ville de Paris. Et c'est drôle ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, oui, attention, Blanqui, c'est pas seulement un boulevard. À quel moment est-ce qu'on donne des noms aux rues? Et qui a voulu qu'il y ait autant d'avenues Auguste Blanqui en France? À quel moment ça s'est opéré?
Fin 19e.
Ah d'accord. C'était une grande figure, fin 19e.
Oui. Mais ces grandes figures, Blanqui, Babeuf, Bernard Roty, Pierre Leroux, toutes ces figures du socialisme révolutionnaire français ont été soigneusement rangées dans des placards à l'abri de la lumière. Parce que les jeunes gens, et moins jeunes, on préfère qu'ils lisent des choses sérieuses, qu'ils lisent Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, les pères du libéralisme actuel, et non pas les agitateurs du 19e, qui pourfendaient déjà la social-démocratie. C'était des gens... Blanqui n'a pas de mot assez dur pour ce qui s'appelait à l'époque la montagne et qui était en fait les sociaux-démocrates de l'époque. Des mots qui sont d'une actualité incroyable.
On va arrêter parce qu'on finirait par parler de politique.
Oui, on risquerait. On risquerait.
Ce serait terrible. Merci, Eric Hazard. Sur l'occupation, c'est le titre du bouquin de Eric Hazan, Naplouse, Calquilia, Hébron. C'est aux éditions de La Fabrique, dont le créateur et le directeur, c'est Eric Hazan. Eh oui. Et dans cette une petite maison d'édition, on en a déjà parlé là-bas si j'y suis et vous les connaissez. Sur ce thème-là, ils avaient édité un livre d'Edouard Saïd, Feu Edouard Saïd, sur le même thème, Israël-Palestine, l'égalité ou rien. Beaucoup de sujets autour de la question. Alors, il y a le livre toujours d'Amira Haas, la journaliste israélienne que nous admirons beaucoup. Il y a Boire la mer à Gaza, ses chroniques de 93 à 96. Un autre livre d'Amira Haas correspondante à Ramallah. Et puis un livre de Karl Marx. Il est connu ce gars-là, c'est un barbu dont on parle souvent. Et un ouvrage intitulé Sur la question juive de Karl Marx. Et puis je sais que La Fabrique prépare pour le mois de janvier un gros bouquin sur Auguste Blanqui. Et on découvrira à cette occasion que Auguste Blanqui n'est pas seulement un boulevard, mais ça a été un grand politicien français, un grand penseur français qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, dans différentes forteresses, et dont Belle-Île-en-Mer, il a passé pas mal de temps à Belle-Île-en-Mer, on l'appelait l'enfermé, donc on attend cet ouvrage avec beaucoup d'intérêt. Encore un autre bouquin à la découverte. Ça me trahit. À La Fabrique, L'héritage de Sharon, Détruire la Palestine, de Tania Reinhardt. Voilà, et puis ne manquez pas sur le site là-bas.org, la-bas.org, un diaporama que nous vous proposons en images, en photos et en sons, résume notre série de reportages qu'on vous a récemment présenté en Afghanistan. Voilà, tout ça, on retrouve tout ça sur le site de franceinter.com également, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, tous ces renseignements, et vous pouvez sur franceinter.com réécouter cette émission, ce numéro de là-bas si j'y suis. C'est Julien Dumont et Fabrice Desmaz qui étaient à la technique aujourd'hui, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert au répondeur. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Le répondeur attend vos remarques, observations, coups de gueule et coups de cœur avec impatience.